Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Christophe Castaner n'ira pas à Rome rencontrer son homologue Matteo Salvini. Le ministre français dénonce les convocations des dirigeants populistes italiens. La brouille entre les deux pays continue après le rappel de l'ambassadeur français. On fait le point avec Louise Baudet dans un instant. Manuel Valls manifestera dimanche à Madrid avec la droite et l'extrême droite contre les indépendantistes catalans. L'ancien premier ministre français, candidat à la mairie de Barcelone, invoque la nécessité de défendre l'unité de l'Espagne. La correspondance de Mathieu Le Taillac. L'Iran fête ces jours-ci les 40 ans de sa révolution islamique. Les conservateurs iraniens continuent à fustiger l'Amérique. Reportage à Téhéran de nos envoyés spéciaux Franck Mathevon et Gilles Gallinaro. En France, des femmes touchées par le cancer portent plainte contre des fabricants d'implants mammaires. Les prothèses texturées sont au centre de ces plaintes. C'est l'enquête de ce journal avec Élodie Guéguin de la cellule investigation de Radio France. Le pouvoir a-t-il un sexe ? Thème d'un débat à l'Assemblée nationale à l'initiative de la députée insoumise Clémentine Autain. Le reportage de Sophie Delpont dans cette édition. Jusqu'où ira la crise diplomatique franco-italienne après le rappel de l'ambassadeur de France à Rome? Depuis hier, les dirigeants populistes italiens multiplient les signes d'apaisement à l'égard de la France qualifiée de pays ami. Dans une tribune adressée au journal Le Monde, Luigi Di Maio affirme qu'il veut collaborer avec Paris, mais le vice-premier ministre italien justifie aussi sa rencontre avec des gilets jaunes mardi à Montargis. Il y a dans cette crise diplomatique une dimension italo-italienne. À moins de 4 mois des élections européennes, le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio est distancé dans les sondages par son partenaire gouvernemental, la Ligue de Matteo Salvini. On fait le point sur cette brouille avec Louise Baudet.
La France, un pays ami, son peuple, un point de référence mondial, son système d'État-providence, l'étoile polaire des droits sociaux européens. N'en jetez plus, dans les colonnes du Monde, Luigi Di Maio change radicalement de ton, vantant le rapport historique d'amitié qui unit nos deux peuples, mais sans rien renier sur le fond. Sa visite aux Gilets jaunes qui a mis le feu aux poudres, façon de saluer le dépassement du clivage gauche-droite qu'il préconise chez lui en Italie. Di Maio en profite pour tacler les recettes ultralibérales à l'œuvre en France et le démantèlement des droits sociaux. Pas vraiment un mea culpa donc, et on a connu des mains tendues plus amicales. De même, Matteo Salvini dit vouloir discuter lui aussi, mais à ses conditions. Extradition des terroristes des années de plomb, arrêt du refoulement des migrants à la frontière. Son invitation lancée au ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner, c'est une convocation, répond l'intéressé.
Non mais d'abord, on ne me convoque pas, mais il se trouve qu'hier j'étais avec le secrétaire d'État de Matteo Salvini dans une instance européenne et que nous avons échangé, y compris sur les questions migratoires. Le dialogue est constant entre nous, il faut qu'il soit respectueux. Je suis prêt à l'accueillir aussi. Une chose est sûre, c'est que je pense que les déplacements diplomatiques doivent se faire non pas en cachette, mais de façon officielle.
Bref, l'ambiance reste polaire et la crise entre la France et l'Italie entière, cela peut durer comme ça jusqu'aux européennes, soupire l'Élysée qui se prépare néanmoins à un tout autre scénario. De nouvelles élections en Italie, la coalition au pouvoir à Rome ne survivant pas à ces dissensions internes.
Et ce matin, la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, avait défendu en ces termes le rappel de l'ambassadeur à Rome. Il ne s'agit pas de dramatisation, il s'agit de dire la récréation, c'est fini. Interrogée sur Radio Classique, Nathalie Loiseau parle d'ingérence malvenue à propos de la rencontre entre Luigi Di Maio et des Gilets jaunes. En tout cas, ces tensions franco-italiennes inquiètent les patrons des deux pays. C'est le message du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui était à Londres aujourd'hui pour rencontrer des chefs d'entreprise français installés au Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Geoffroy Roux de Bézieux dénonce les provocations des populistes italiens.
Nous, on est extrêmement inquiets de ce qui se passe. Le MEDEF, comme le patronat italien, souhaite qu'il y ait un apaisement et surtout qu'on puisse continuer à faire du commerce, des affaires avec nos amis italiens. C'est un partenaire essentiel. Et c'est pour ça qu'on organise à la fin du mois un sommet franco-italien à Paris, avec pour objectif de continuer de renforcer les relations d'affaires. Et les déclarations politiques de M. Di Maio, qui sont vraiment destinées à la politique locale, sont pas de nature à calmer les choses. Di Maio cherche la bagarre, quoi, en quelque sorte, hein, c'est du niveau cours de récréation. Donc on est évidemment solidaire du gouvernement français, mais on souhaite surtout qu'on reparte sur des bassins. Au fond, quand les politiques font des provocations, le rôle des entrepreneurs, le rôle de la société civile, c'est de continuer à construire l'Europe, à renforcer les liens avec tous les pays et avec l'Italie comme les autres.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, patron du MEDEF, il répondait à notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. L'initiative a de quoi surprendre de la part d'un ancien socialiste. Manuel Valls manifestera dimanche à Madrid aux côtés de la droite et de l'extrême droite. Un rassemblement contre l'actuel chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, accusé de pactiser avec les indépendantistes catalans. Manuel Valls a quitté la France pour briguer la mairie de Barcelone. Et l'ancien Premier ministre français justifie sa présence à la manifestation au nom de l'unité de l'Espagne. Mathieu Le Taillac nous appelle de Madrid.
La manifestation est convoquée par Ciudadanos, le parti centriste qui soutient la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone, par le Parti Populaire, le PP, c'est la grande formation de la droite espagnole, et c'est un fait, par Vox, le parti d'extrême droite qui s'est fait connaître après son succès électoral en Andalousie. Mais attention, ceci n'est pas une manifestation de droite ou d'extrême droite. En trois tweets enchâssés, l'ancien Premier ministre a justifié sa décision « J'irai dimanche à Madrid pour défendre la Constitution et l'unité de l'Espagne, sans aucun état d'âme ni aucun complexe, parce que nous sommes à un moment historique, dit-il. Avant de conclure, la critique selon laquelle la manifestation serait de droite ou d'extrême droite est fausse. Il s'agit d'un mouvement transversal, écrit Manuel Valls, mouvement qu'il compare à la manifestation contre le référendum d'indépendance d'octobre 2017. N'en déplaise au candidat à la mairie de Barcelone, non seulement Vox a été associé au choix du slogan et de l'affiche de la manifestation, mais en plus des groupuscules néofascistes et néofranquistes se targuent d'y participer. En réalité, Valls a beau nier des états d'âme, son équipe a commencé par dire à la presse qu'il n'irait pas avant d'annoncer qu'il réfléchissait à la question. Les médias espagnols spéculent sur les pressions que la direction de Ciudadanos a pu exercer sur le candidat qu'elle soutient.
Mathieu de Taillac, correspondant en Espagne. Le gouvernement socialiste espagnol accuse aujourd'hui les indépendantistes catalans de rejeter sa dernière proposition de dialogue. Les séparatistes exigent toujours un référendum d'autodétermination en Catalogne, ce que refuse catégoriquement le gouvernement à Madrid. C'était il y a 40 ans, en février 1979, l'Iran basculait dans la révolution islamique. Le retour au pays de l'ayatollah Khomeini allait provoquer le départ du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Aujourd'hui, le pays souffre du rétablissement des sanctions américaines après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais les ultra-conservateurs qui contrôlent une partie du pouvoir à Téhéran restent plus que jamais fidèles à la révolution islamique. Nos envoyés spéciaux Franck Mathevon et Gilles Gallinaro ont assisté tout à l'heure à la grande prière du vendredi à Téhéran.
Devant des milliers de fidèles, l'ayatollah Khatami donne le ton du discours ultra-conservateur en Iran. Il se félicite qu'un nouveau missile ait été dévoilé cette semaine à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution. L'Iran, dit-il, pourra ainsi frapper ceux qui l'attaquent. Les missiles tomberont comme le tonnerre. Le slogan « Mort à l'Amérique » résonne dans l'immense enceinte. À la sortie de la prière, un vieil homme brandit un brassard vert, celui qu'il portait quand il a accueilli l'ayatollah Khomeini il y a 40 ans.
À l'époque, nous pensions que cette révolution durerait quelques années et finalement nous en célébrons aujourd'hui le 40e anniversaire et la République islamique est à son zénith. Si Dieu le veut, nous célébrerons le 100e anniversaire de la révolution.
Aujourd'hui, l'Iran souffre des sanctions américaines, une simple épreuve pour les fidèles.
C'est une nouvelle guerre économique qui a été déclenchée par les Américains. Et nous allons gagner cette guerre, c'est sûr à 100%.
La crise économique, l'isolement de l'Iran, rien n'ébranle la confiance des ultra-conservateurs, piliers de la République islamique.
Le reportage de Franck Mathevon et Gilles Gallinaro pour les moyens techniques envoyés spéciaux de Radio France en Iran. La France envisage plusieurs scénarios dans le dossier du rapatriement des djihadistes français en Syrie, mais rien n'est acté. La ministre des Armées est arrivée cet après-midi en Irak, Florence Parly, qui a refusé de confirmer les informations de BFM TV. La chaîne privée affirmait ce matin que deux avions américains seraient chargés de ramener en France 150 Français détenus par les Kurdes en Syrie. En Irak, Florence Parly doit rencontrer notamment le Premier ministre irakien avec un message clair. La France soutiendra militairement le gouvernement de Bagdad, quoi qu'il arrive. Les explications de Franck Cognard.
Le moment est particulier, dit Florence Parly, parce que Daesh est quasiment défait territorialement, mais le travail n'est pas encore terminé, ajoute-t-elle. Alors évidemment, le terrorisme fait partie des discussions que va avoir la ministre des Armées avec les présidents et premiers ministres irakiens. Elle veut conforter une relation ancienne, comme elle dit, évoquer comment les détachements français présents ici vont pouvoir continuer leur mission de formation et d'entraînement des forces locales au contre-terrorisme, par exemple. La question des djihadistes français arrêtés dans la région est aussi un point de discussion, et pour autant, Florence Parly reste évasive. « Je ne commente aucun scénario possible », dit-elle, « il y a tellement d'hypothèses dans la presse ». Elle fait référence notamment aux dernières informations qui dessinent un retour en France de 150 personnes combattants de Daesh, femmes et enfants, sous escorte américaine. Autre sujet à aborder, la reconstruction du pays qui aspire désormais à autre chose qu'à la gestion des conséquences d'une longue guerre. Tous ces points seront discutés lors de cette visite politico-diplomatique qui a débuté par un passage à l'ambassade de France, l'une des deux ambassades ici en Irak qui n'est pas située dans la zone verte, la zone sécurité de Bagdad.
Au moins 13 morts dans une fusillade au Brésil lors d'une opération de police dans des favelas de Rio de Janeiro. La police militaire brésilienne affirme avoir touché par balle 12 criminels sans plus de précision. Les favelas de Rio sont régulièrement en proie à des fusillades lors d'opérations de police contre le trafic de drogue. Un quart des 6 millions d'habitants de la métropole brésilienne vivent dans ces quartiers. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir aux prothèses mammaires dites texturées, soupçonnées de provoquer des cancers. En France, 500 000 femmes portent des implants mammaires, dont 85% sont texturés justement, alors que l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, vient de clore une grande concertation publique sur la possible dangerosité de ces prothèses. Des femmes malades ont saisi la justice. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Stanislas.
De la cellule investigation de Radio France, Élodie, plusieurs plaintes ont été déposées cette semaine à Paris et à Marseille.
Oui, par des femmes qui disent que leur vie a été gâchée par les implants mammaires, comme Laetitia, 42 ans. Elle a développé un lymphome à grande cellule. C'est un cancer très rare qui ne touche que les porteuses de prothèses. Plusieurs femmes en sont mortes en France. Laetitia, elle, s'en est sortie, mais elle est très en colère.
On donne de l'argent à des spécialistes pour vous rendre plus belle, tout va bien se passer. Mais non, ça se passe pas bien. On vous met de la mort dans le corps, vous payez pour qu'on vous mette de la mort dans le corps. J'ai été obligée de faire une demande d'adulte handicapé parce que je ne peux plus faire mon travail. Je ne peux plus faire d'enfant. Ça ruine des vies, ça ruine des santé, ça ruine beaucoup de choses.
Et ce qui est donc en cause dans cette maladie, Élodie, c'est un type de prothèse particulier.
Oui, des prothèses à enveloppe texturée, rugueuse, que l'on retrouve dans la plupart des cas de lymphome en France. Alors, était-elle défectueuse ou est-ce que c'est la texture qui pose problème? La justice doit enquêter pour l'avocat de Laetitia, le pénaliste marseillais Emmanuel Molina.
Il y a une véritable nécessité que la justice pénale désormais se saisisse à bras-le-corps de cette situation. La véritable question, c'est celle de l'innocuité ou pas de ces prothèses mammaires texturées. Toute femme qui subit dans sa chair, pour des raisons qui lui appartiennent, une implantation de prothèses mammaires n'a pas à redouter que cette prothèse, à la défaveur d'un choc banal, mineur, ne se trouve à l'origine de ce développement malheureusement fulgurant de cette maladie.
Et il n'y a pas que les fabricants d'implants qui sont dans le viseur de ces femmes.
En effet, il y a aussi les autorités sanitaires qui sont citées dans une autre plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. L'agence de sécurité du médicament aurait traîné dans ce dossier du lymphome. Selon l'avocat du barreau de Marseille, Laurent Godon, il y a eu 59 cas en 10 ans, 3 décès et toujours aucune interdiction.
Je mets en cause l'ANSM parce que c'est son rôle d'utiliser ce qu'on appelle la police sanitaire pour pouvoir empêcher que des drames arrivent. Lorsqu'on a 60 lymphomes, que ce lymphome est spécifique aux implants mammaires, que toutes les études concordent en ce sens, que même l'Institut du cancer, qui est quand même bien placé, décide de plus implanter, il faut prendre des décisions.
Alors, question Élodie, si ces prothèses sont dangereuses, pourquoi n'ont-elles pas déjà été interdites en France?
Eh bien, parce que de nombreux chirurgiens les défendent, expliquant que les autres types d'implants qui ont une enveloppe lisse ne donnent pas d'aussi bons résultats sur le plan esthétique et surtout qu'il y a plus de complications avec ces modèles d'implants. Il faut prendre en compte la balance bénéfice-risque, estime le docteur Michael Atlan, chef du service de chirurgie plastique et réparatrice à l'hôpital Tenon à Paris.
S'il y avait un taux de lymphome lié aux prothèses mammaires de 50% de risque sur les patientes porteuses de ce type d'implant, évidemment la question ne se poserait pas. On n'est pas à ce taux-là. On est à 1 sur 3000 dans la pire hypothèse. Même s'il y a eu des victimes, 3 morts, 59 cas, ce sont des maladies qui sont globalement guérissables, beaucoup plus guérissable que le cancer du sein, ces patientes-là, elles sont capables d'entendre, vous savez, il y a peut-être un surrisque qui est de entre 1 sur 3000, 1 sur 7000. Et les conséquences seraient ça.
Alors les autorités sanitaires annonceront dans les prochaines semaines si certaines prothèses texturées sont interdites ou non en France.
Élodie Guéguin, merci. Votre enquête à retrouver sur franceculture.fr. Le pouvoir a-t-il un sexe ? C'est le thème du débat organisé aujourd'hui à l'Assemblée par la députée insoumise Clémentine Autain en partenariat avec le journal Libération. Débat qui intervient au moment où l'ex-député écologiste Denis Baupin attaque en justice les femmes qu'il accuse d'agression sexuelle. Une quinzaine d'hommes politiques sollicités pour participer à l'événement ont décliné l'invitation, notamment Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, ou bien Jean-Luc Mélenchon. En revanche, Benoît Hamon, le leader de Génération, était présent. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
En direct de l'Assemblée nationale, Benoît Hamon qui a débattu cet après-midi avec la députée communiste Elsa Faucillon.
Oui, Elsa Faucillon qui prône une technique proche de celle du judo, c'est-à-dire utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. En l'occurrence ici, une situation de faiblesse numérique, seulement 2 femmes dans le groupe communiste.
Par exemple, dans les médias, quand ils cherchent une femme communiste, il n'y a pas beaucoup le choix. Bon, bah, je me saisis de cette opportunité pour aller dans les médias et pour pouvoir être présente dans les médias. Par exemple, il y a des commissions intéressantes où généralement, c'est pareil, quand il reste quelques places et qu'on a le droit à une personne dans le groupe communiste, eh bien, la majorité, comme elle a attribué toutes les places aux hommes, elle propose que le groupe communiste attribue une femme. Bah, il en reste que 2, donc j'ai plus souvent l'opportunité de le faire. Là, c'est vraiment de se servir, en tout cas, de ce qu'est la faiblesse.
Elle interpelle ensuite Benoît Hamon, qui avait déclaré avoir connu le sexisme de Martine Aubry envers lui à une occasion, il y a plusieurs années. Benoît Hamon réplique et met en avant sa participation au débat.
Mais en l'occurrence, si c'est mixte, comme c'est le cas, puisque je crois que j'ai été invité comme tel, il faut que je puisse, qu'on puisse en parler, que le dialogue se crée.
Et il ajoute.
Moi, j'ai assisté et j'ai participé à des réunions dites de chef où les décisions se prennent. Qu'en fait, la plupart du temps, le corps des femmes en politique, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, ni même leur contribution intellectuelle au débat au moment de prendre les décisions. Et ça, c'est un sujet en soi pour les organisations.
Reprise de volée de la part des 2 co-animatrices du débat.
Il a tout de même le dernier mot, je remarque.
Hein. Non, il a. En tout cas, voilà, je voulais quand même souligner. Et l'idée, c'est pas qu'on l'applaudisse. Il y a quand même une quinzaine d'hommes qui ont annulé leur venue à ce colloque aujourd'hui. Il a au moins le mérite d'être là, mais on n'applaudit pas, c'est normal. Non.
Voilà, un débat dans une ambiance quand même bon enfant. Benoît Hamon a promis, lui, de mettre en place très vite une structure pour prévenir les situations de harcèlement dans les organisations politiques, 1 an après l'affaire qui a touché son équipe de campagne.
Sophie Delpont, en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques d'Alexandre Abergel. Toujours au sujet de ce débat, la sénatrice écologiste Esther Benbassa sera l'invitée du journal de 22h ce soir. C'est la vidéo de leur interpellation violente qui allait déclencher l'affaire Benalla. Le couple de la contrescarpe était jugé ce matin en correctionnel à Paris pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre le 1er mai dernier dans la capitale. C'était quelques minutes avant leur arrestation par Alexandre Benalla et Vincent Kraaz. Le couple de trentenaires écope d'une amende de 500 euros. Vous avez suivi l'audience, David Di Giacomo.
À la barre, le couple dit regretter un acte irréfléchi. Ils ont jeté une carafe d'eau, un cendrier et une bouteille en plastique en direction des CRS. On a pris du gaz lacrymogène en pleine figure, on a totalement perdu le contrôle et on a attrapé ce qu'on avait sous la main, explique la jeune femme. Des faits graves et inadmissibles, souligne la procureure. Elle réclame 2 mois de prison avec sursis, assortie d'une amende. Mais la présidente décide finalement de ne retenir que la sanction financière. Saon Saber s'en réjouit, c'est l'avocat du couple.
Les conséquences qui ont suivi les interpellations de Chloé et Georges ont été suffisamment importantes pour eux, pour qu'ils comprennent aussi la mesure de leurs actes. Et le délibéré nous satisfait, c'est une amende de 500 euros. Les choses sont établies, ce ne sont ni des casseurs, ni des black blocs, ni des voyous, ni des personnes venues en découdre avec les forces de police. La vérité judiciaire a parlé et nous n'avons plus raison de nous inquiéter sur le portrait qui sera dressé d'eux à l'avenir.
Mais Georges et Chloé ne peuvent pas encore tourner la page. Du 1er mai dernier, Alexandre Benalla est mis en examen pour l'interpellation violente de ces 2 jeunes gens. Le couple est partie civile dans cette enquête, véritable point de départ de l'affaire Benalla.
C'était une légende du cinéma britannique. Albert Finney est mort aujourd'hui à l'âge de 82 ans, emporté par une courte maladie, indique sa famille. Albert Finney était connu notamment pour ses rôles dans Le Crime de l'Orient Express ou bien Erin Brockovich, acteur shakespearien à l'origine. Il avait ensuite incarné la nouvelle vague anglaise dans les années 60. La météo demain agitée sur la majeure partie du pays. Une nouvelle dégradation pluvieuse et venteuse arrive par le nord-ouest. Au sud, le soleil dominera. Température minimale de moins 2 à 8 degrés, les maximales plutôt douces iront de 8 à 17 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.